Voici donc les deux textes liturgiques pour cette fête du Saint-Nom de Jésus, l'épître tirée des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit « Prince du peuple et anciens, écoutez, puisqu'aujourd'hui nous sommes jugés pour avoir fait du bien à un homme infirme et qu'on nous demande comment il a été guéri, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient guéri devant vous. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous, les constructeurs, et qui est devenu la pierre d'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, quand le huitième jour fut venu, il fallait circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange lui avait donné avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, bien que pour un catholique, l'année nouvelle commence au premier dimanche de l'Avent, donc à la fin du mois de novembre. Je voudrais quand même souhaiter une sainte année nouvelle à tous les fidèles qui sont ici, qui viennent ici, puis également tous ceux qui écoutent la messe, qui suivent la Sainte Messe sur Internet. Quelle grâce demander en ces débuts d'année. Mon Dieu nous donne un début d'année, ce qu'il va nous donner toute l'année, on ne sait pas. Je pense que la grâce à demander, c'est vraiment la grâce de conserver la foi. Tant de personnes autour de nous, des millions de personnes perdent la foi. Demandons la grâce de la conserver. Et comme la foi, ce n'est que le point de départ de la charité, la foi sans la charité, c'est une foi qui est morte, hein, mourante. Donc il faut se demander non seulement la foi, mais de vivifier notre foi par la vertu de charité, l'état de grâce. Donc la grâce des grâces à demander aujourd'hui, c'est la grâce de conserver la charité pendant toute cette année. Pas commettre de fautes graves pour perdre, qui consiste pour nous à perdre la vertu de charité. Je voudrais insister sur cette fête du Saint-Nom de Jésus. C'est une fête capitale, surtout par le choix des textes. Il y a deux textes absolument fondamentaux. Texte tiré de Saint Paul aux Philippiens, qui est utilisé par l'Église pour l'introïde d'aujourd'hui. Et également, un texte des Actes des Apôtres. Et quand on relit ces textes, on se rend compte de la folie de tout cet écuménisme dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée. Que tous les dieux sont les mêmes, que toutes les religions sont égales, qu'on sert le même Dieu par la même religion. Qu'est-ce que nous répond notre Seigneur Jésus-Christ? C'est Saint-Esprit qui parle. Saint Paul, aux Philippiens, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au ciel, pour les anges, sur la terre, pour les hommes, et même dans les enfers, pour les démons. Et que toute langue confesse que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Et pour être sûr qu'on ait bien compris, avec le texte des Actes des Apôtres, pour l'Épître, Saint-Esprit va enfoncer le clou. Saint-Pierre et Saint-Jean sont à la belle porte à Jérusalem, au temple. Et Saint-Pierre vient de faire un miracle éclatant. Il vient de guérir un boiteux qui était là depuis des années, qui mendiait à la porte, il vient de le guérir en lui disant « Je ne peux pas te donner de l'or et de l'argent, j'en ai pas, parce qu'il mendiait. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, lève-toi. » Et il le guérit. Ah, évidemment, ça fait un vacarme épouvantable dans toute la ville était au courant. Et Saint Paul, à tous ces gens qui s'approchent et qui demandent ce qui vient de se passer, qui ne comprennent pas comment des hommes ont pu faire un miracle pareil. Voilà ce qu'il leur dit. Qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que celui-ci que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient guéri devant vous. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous, les constructeurs, qui est devenue la pierre d'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Créateur, qu'un seul Sauveur, qu'une seule Église. Je sais bien que ça ne passe pas dans le monde moderne, mais le Saint-Esprit a d'autres idées sur la question. Et qu'est-ce qu'il faut noter? Texte de Saint Paul dit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Parce que beaucoup de gens vont nous dire, mais monsieur l'abbé, ce texte est très beau, c'est très joli, c'est très mignon. Mais ça s'adresse aux catholiques. Pour bien nous faire comprendre que ces textes fondamentaux s'adressent à tous les hommes, y compris ceux qui ne sont pas catholiques. Saint Paul explique que tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et même dans les enfers. Parce que même dans les enfers, les démons sont obligés de reconnaître le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de fléchir le genou devant lui. Ce sont des textes qui nous semblent aujourd'hui trop forts. Les gens vont nous dire, mais monsieur l'abbé, ça c'était valable au Moyen Âge, mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours aussi jeune. Aujourd'hui, il n'y a toujours qu'un seul moyen d'aller au ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, comme hier, comme demain, comme pour toute l'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et donc, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ doit être inscrit sur tous les fronts. Et les genoux de tous les hommes doivent fléchir afin que toute langue confesse que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Là, il y a deux temps pour faire ça. Soit on inscrit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre front, on fléchit les genoux devant lui, et on le reconnaît comme notre Dieu, on le confesse avec notre langue comme notre Dieu volontairement. Où on sera obligé de le faire, contraint et forcé, le jour de notre mort. Parce que le jour de notre mort, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos convictions, quelle que soit notre foi, notre absence de foi, tous les hommes seront jugés par le même Dieu, parce que Dieu est le créateur de tous les hommes. Et même les païens, les musulmans, les bouddhistes, les païens, même M. Macron lui-même. Tout le monde sera obligé à ce moment-là de reconnaître l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra tous nous juger, vous et moi compris. Et ce jour-là, on sera bien obligé de reconnaître. Et on sera obligé de fléchir le genou, même ceux, pour ceux qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Même tous ceux autour de nous, ils sont pléthores, qui se battent contre l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe avec ce nouvel ordre mondial. Tous ces gens qui se prétendent indépendants de Dieu, un jour ils vont mourir et ils vont être obligés de reconnaître l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont être obligés de fléchir le genou et de confesser qu'il est Dieu. Alors nous avons un choix, ou de confesser volontairement, ou de confesser contraint, forcé. Parce que le jour de notre mort, il n'y aura plus de choix. Parce qu'on ne sera plus dans le temps, mais dans l'éternité. Alors marquons notre front avec ce nom, notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que le jour de notre baptême, le prêtre a marqué notre front avec le signe de la croix. Et ce que ceux qui n'ont pas ce front marqué du signe de la croix, qui n'ont pas la foi catholique, ne pourront pas participer à la gloire du ciel. Les pères de l'Église donnent un exemple assez extraordinaire. Rappelez-vous de combat de David et de Goliath. David, un adolescent, 15-16 ans, devant un monstre d'airain, un monstre d'acier, un monstre de puissance physique. Qu'est-ce que fait David? Il prend cinq petits cailloux dans le torrent, et avec sa fronde, il va frapper le front de Goliath. Et les pères de l'Église font remarquer, ce front n'était pas marqué du sceau de la croix. Et c'est pour ça que le front de Goliath a été percé, qu'il est mort. David a pu lui couper la tête. Alors, mes bien chers frères, nous devons comprendre ces choses-là. Et nous devons, nous aussi, Faire très attention d'avoir ce front marqué, pour que nous reconnaissions que notre Seigneur Jésus-Christ est notre autorité. Que nous acceptions de fléchir le genou devant notre Seigneur Jésus-Christ, de confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Créateur, de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Rédempteur, et de confesser qu'il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens vont dire, mais monsieur l'abbé, ce n'est plus possible de prêcher ces choses-là autour de nous aujourd'hui. Regardez, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe justement dans ce monde moderne, parce que on veut plus confesser notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme le démon prend le vide, si je refuse notre Seigneur Jésus-Christ, si je refuse de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme mon roi, si je refuse d'avoir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ inscrit sur mon front, il y a un autre nom qui va s'inscrire. Parce qu'on ne peut pas vivre sans idole, comme on dit vulgairement. On est obligé d'avoir un Dieu. On adore le vrai Dieu, on adore les faux dieux. Et donc ceux qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ vont avoir un autre nom inscrit sur leur front. Le nom du démon. La marque de la bête dont parle le texte de l'Apocalypse. Et le texte de l'Apocalypse nous fait remarquer que cette marque de la bête, c'est un chiffre d'homme. 666, 666. Et pour ceux qui ne savent pas, 666, c'est un symbole. Saint Augustin explique très bien pourquoi ce chiffre de 6, de 3 fois 6, 666. Parce que les chiffres ont un symbole dans l'Écriture sainte. Le 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est ça qu'il y a 7 sacrements et 7 dons du Saint-Esprit. Et le 3, c'est le chiffre de la totalité. Sainte Trinité, trois personnes. Donc 6, qui représente la perfection moins 1, donc l'imperfection. 3 fois 6, c'est la totalité de l'imperfection. C'est le chiffre de la bête. Et le texte de l'Apocalypse nous annonce que ce chiffre de la berque sera marqué sur le front de tous ceux qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Et derrière ces textes d'une extraordinaire importance, il y a tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui est là. Qu'est-ce que c'est que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est l'Église qui prie pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi de la société parce qu'il est créateur et parce qu'il est rédempteur. Parce qu'il est créateur, il a un droit de nature sur nous. Et parce qu'il est rédempteur, parce qu'il est créateur, il a un droit de nature sur nous. Et parce qu'il est rédempteur, qu'il nous a sauvés par sa croix, il a un droit de conquête sur nous. Donc ce texte ouvre la porte à des plus grands dogmes de la foi catholique, le dogme du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le problème, c'est le Saint-Esprit qui parle, cette fois-ci par Saint-Luc, qui écrit les Actes des Apôtres. Eh bien, c'est que la pierre a été rejetée par les bâtisseurs. Qui est cette pierre? La pierre, c'est le Christ. Et Saint-Luc explique que c'est la pierre d'angle, la clé de voûte. Dans les églises anciennes, tout dans les églises romanes, et même dans les églises gothiques, tout le chœur était tenu par une clé de voûte. Il y avait les différents arcs qui se réunissaient par une pierre centrale, appelée la clé de voûte. C'était une pierre extrêmement solide qui tenait ensemble tout l'édifice. Et si la pierre centrale, la clé de voûte, s'écroulait, tout l'édifice s'écroulait. Mais la clé de voûte de l'univers tout entier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette clé de voûte qui a été rejetée par les bâtisseurs. Les bâtisseurs sont les hommes. On a voulu construire sans notre Seigneur Jésus-Christ. Comme ceux qui veulent construire une maison sans mettre de fondation. Notre Seigneur Jésus-Christ en parle dans son évangile. Il parle de ceux qui veulent construire des maisons sur le sable. Qu'est-ce qui se passe? Le vent souffle, la pluie se précipite, le torrent se précipite contre la maison et tout s'écroule. Au contraire, ceux qui acceptent la clé de voûte qui est notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien ces gens-là, ils vont construire sur le roc. Le vent peut souffler, l'eau peut se précipiter contre la maison, il n'y a rien qui bouge. Et donc Saint-Luc nous dit que l'homme moderne a balayé, a enlevé, a poussé au loin la clé de voûte, notre Seigneur Jésus-Christ. Et après les gens pleurent en disant il n'y a plus rien qui va. Ben évidemment, comment voulez-vous que ça marche en notre Seigneur Jésus-Christ? Et pour comprendre cette phrase, il faut aller chercher un autre texte. Et comme par hasard, ce texte, on le trouve dans beaucoup d'évangiles pendant le temps de Noël. Ce texte, par exemple, qu'on trouve dans le dimanche, dans l'octave de Noël, qu'on dit une messe, qu'on dit pendant la semaine de Noël. Et l'Église va aller chercher la prophétie de Siméon. Pourtant, cette prophétie, elle va être prononcée plus tard, au 2 février, au moment où notre Seigneur Jésus-Christ va être présenté au Temple. Et pour bien montrer le rapport entre cette prophétie de Siméon et le texte d'aujourd'hui, l'Église utilise ce texte liturgique de nombreuses fois pendant le temps de Noël, justement. Connaissez l'histoire, c'est ce vieillard qui attendait, le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant de tenir entre ses bras le Sauveur du monde. Donc il attendait avec la prophétesse Anne, une vieille veuve qui attendait elle aussi la rédemption d'Israël. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, enveloppé de l'ange, porté par la très sainte Vierge Marie, accompagné du chef de la sainte famille, Saint Joseph, son père putatif, le Saint-Esprit révèle à Saint Siméon, ce bébé qui arrive là-bas à l'autre bout de la place, c'est lui, c'est le Sauveur, c'est le Messie. Alors Saint Siméon et Anne vont lâcher tout. Ils vont se précipiter pour adorer l'enfant. Ils vont prendre cet enfant qui semble totalement impuissant, humainement parlant. Et Siméon va faire cette prophétie extraordinaire. Voici que cet enfant est établi pour la ruine, pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, comme un signe qui excitera la contradiction et à vous-même, et par la Sainte Vierge, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Quel texte! Et pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction? Bien précisément parce qu'il est la pierre angulaire, la pierre d'angle qui a été enlevée, qui a été repoussée par les bâtisseurs. Et c'est pour ça que tout s'écroule. Alors il faut méditer ces textes-là pour en comprendre l'importance. Vous voyez très bien qu'en écoutant ces textes, en les comprenant dans le sens de l'Église, toute la nouvelle psychologie actuelle, toute la nouvelle théologie de l'Église de Vatican II s'écroule. Tout l'écuménisme fou professé maintenant depuis des années par toutes les personnes qui ont littéralement volé siège de pierre depuis la mort du pape XII en 1958, qui prêchent tous la même chose, à savoir que toutes les religions se valent. Tout s'écroule par ce texte de saint Paul, par ce texte de saint Luc, par ce texte également, ce texte de l'acte des actes des apôtres. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Et notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction. Et parce qu'il est un signe de contradiction, il est un signe de contradiction parce qu'il est la pierre angulaire et que l'homme moderne, dans sa folie, veut repousser cette pierre angulaire. Alors tout s'écroule. Et je me permets de vous rappeler des choses qui sont tellement importantes à expliquer aujourd'hui, plus que jamais aujourd'hui. C'est dans des choses que j'ai déjà expliquées souvent, mais j'insiste parce que si on comprend ces choses-là, on comprend beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction? Et on dit, mais notre Seigneur Jésus-Christ vient pour sauver tous les hommes. Pourquoi est-ce qu'il est un signe de contradiction? Alors qu'au contraire, il devrait être accueilli par tout le monde. Regardez les anges, regardez les bergers, regardez les rois mages, ils accueillent tous notre Seigneur. Oui, il n'y a pas qu'eux aussi. Hérode, il a accueilli notre Seigneur? Il n'a pas accueilli notre Seigneur Jésus-Christ. Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses soldats pour essayer de tuer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le massacre des saints innocents. Pour bien nous montrer qu'il y a deux sortes d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui suivent Hérode, et il y a ceux qui suivent les rois mages et les bergers, c'est pas les mêmes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, non pas parce qu'il est Dieu, comme pensent la plupart des gens. Notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction parce qu'il est l'unique vrai Dieu. Il ne faut pas oublier la deuxième partie du premier commandement. Dans l'Église, le premier commandement de Dieu, tu n'auras pas de faux dieu en ma présence, tu n'auras pas d'autre dieu en ma présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne qu'il y a des gens qui adorent d'autres dieux que lui-même, qui prétendent que d'autres dieux peuvent prendre la place du vrai Dieu. Et Dieu est un signe de contradiction parce qu'il est l'unique vrai Dieu. Donc tous les autres dieux, les dieux des gentils sont des démons. C'est déjà le roi David qui le chantait, qui le disait 1000 ans avant notre Seigneur. Alors c'est la même chose pour l'Église. L'église catholique, c'est un signe de contradiction, pourquoi? Ah, parce que cette église divine, l'église catholique est divine. Mais pas du tout. L'église catholique est divine, c'est vrai. Mais c'est un signe de contradiction parce que notre Seigneur Jésus-Christ enseigne, hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Voilà ce qui ne passe pas. Vous savez, des gens qui se prétendent Dieu aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils manquent. Il y en a plein. Les Romains, dans leur panthéon, ils avaient des centaines et des centaines de dieux, à tel point que quand ils prenaient contrôle d'un autre pays, ils rajoutaient les dieux du pays dans le panthéon romain. On peut toujours servir. Un dieu de plus, un dieu de moins, ça leur était complètement égal. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par son Église, enseigne hors de l'Église catholique qu'il n'y a pas de salut. Alors, si notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, si son Église est un signe de contradiction, nous, catholiques, on va arriver après en disant, ben voilà, moi j'ai une petite vie bien tranquille. Ah bon? Vous voulez suivre un Dieu qui est un signe de contradiction? Vous voulez suivre une Église qui est un signe de contradiction? Vous voulez avoir une petite vie bien tranquille? Alors, allez dans l'Église de Vatican II, vous avez une petite vie bien tranquille, mais quelques problèmes techniques le jour de votre mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes, nous aussi, des signes de contradiction. Et je vous assure que qu'une soutane sur le dos, quand on est dans un grand magasin, on se rend bien compte qu'on est un signe de contradiction. Voilà la façon dont certaines personnes nous regardent. J'ai l'impression d'avoir un martien devant eux. Un curé en soutane. Alors parfois, il faut avouer, on a des signes de certaines charités naturelles au moins. Parfois même des gens qui viennent nous serrer la main, merci pour la soutane. On a aussi des gens qui, on les voit grincer des dents. Parce que ce prêtre en soutane, la soutane rappelle l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a déjà des gens qui commencent à demander l'interdiction en France de toute port d'habit religieux. Parce qu'il paraît que ça va contre le laïcisme français. Donc, vous voulez garder la soutane dans votre oratoire? Très bien. Mais par l'extérieur. Eh bien, mes bien chers frères, il nous faut en cette grande fête du nom de Jésus demander cette grâce de la fidélité. Fidélité à notre foi catholique, fidélité à tout ce que nous avons reçu. Prêcher envers et contre tout. Prêcher à temps et à contre-temps, nous dit saint Paul. Prêcher que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu, la pierre angulaire, et qu'il nous faut accepter dans notre vie pour que notre vie ne s'écroule pas. Et que même si nous vivons dans un monde dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ a été éliminé systématiquement, qu'au moins dans notre cœur, qu'au moins dans nos familles, notre Seigneur Jésus-Christ soit reconnu comme roi. Que nous puissions vraiment avoir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ inscrit sur notre front. Que nous ayons le courage de fléchir le genou devant notre Seigneur, de confesser avec notre langue qu'il est le roi des rois, qu'il est le créateur, qu'il est le rédempteur, qu'il a droit à nos adorations. Regardez la façon dont il a été adoré par les anges, par les rois mages, par les bergers, par Saint Joseph, notre Sainte Vierge Marie. Imaginez qu'elle a dû être, qu'elles ont dû être les pensées de Notre-Dame quand elle a reçu miraculeusement, par une naissance miraculeuse, puisque si la grossesse a été normale, le début et la fin de la grossesse sont miraculeux. Lorsque Notre-Dame a reçu entre ses mains, qu'elle a enveloppé de l'ange ce petit bébé de quelques kilos, qu'elle a réalisé ce bébé que j'enveloppe de l'ange, il porte le monde sur ses épaules. Je le porte, mais en fait, c'est lui qui me porte. Eh bien, cet enfant, vous allez le recevoir pendant votre communion. Aujourd'hui, quand vous allez communier, vous allez recevoir le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité. Alors, passez par la Sainte Vierge. Passez par la Très Sainte Vierge Marie pour qu'elle vous aide à comprendre toutes ces choses qui sont tellement importantes. Nous demanderons la grâce donc aujourd'hui et pour toutes ces cette nouvelle année dont le bon Dieu nous donne le début. Nous demanderons la grâce de conserver envers et contre tout la foi de nos pères. De croire que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, incarné dans le Saint très pur de la Très Sainte Vierge Marie, Créateur du monde, Sauveur de toute l'humanité. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.